France Culture.
C'est l'illustration parfaite de la loi du marché. Si les banques dites traditionnelles offrent la possibilité aux agents économiques, privés comme publics, de s'endetter, d'autres institutions ont décidé de faire de même, mais en dehors des circuits officiels, loin des yeux des régulateurs, en proposant des produits plus risqués, mais aussi potentiellement plus rentables, que ceux qui aiment le risque les suivent. Tel est le message lorsque cette offre nouvelle émerge et se développe. Seulement voilà, dans le monde de la finance, tout est question de liens, d'interconnexion et de dépendance, et une chose en entraînant une autre, c'est tout un système qui s'est retrouvé pris dans la spirale du risque mis en place par ces institutions qui entendaient instaurer leurs lois sans forcément trop se soucier des conséquences. Le shadow banking, c'est ainsi qu'on l'appelle, et son cortège de produits et de mécanismes a, depuis la crise des subprimes de 2007, fait couler beaucoup d'encre. S'est-il assaini pour autant ? Les banques dites traditionnelles ont-elles depuis coupé le cordon et limité le risque de contagion ? Rien n'est moins sûr, tant les promesses de ces institutions continue d'alimenter le rêve d'une économie facilement finançable. C'est donc à l'ombre que nous allons marcher jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Anouk Miliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Anthony Thomasson. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Philippe Madiès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur de finance à l'université Grenoble-Alpes et chercheur au CERAG, le Centre d'études et de recherche appliquées à la gestion. Également avec nous en studio, Jezabel Coupé-Soubéran, vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également la co-autrice d'un ouvrage parmi d'autres, il faut le dire, avec Christophe Nijam, d'un petit ouvrage assez pratique dont la troisième édition, mise à jour, a paru l'année dernière, intitulé « Par les banques en 30 questions ». C'est paru à la documentation française. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Jezabel Coupé-Soubéran, commençons peut-être par la question la plus ardue et pourtant la plus nécessaire pour commencer cette émission. Le shadow banking, on en a parlé, mais il faut maintenant tenter de le définir. Que désigne cette finance de l'ombre pour parler français ?
Alors, je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent d'une ancienne publicité pour une boisson qui s'appelle toujours, je crois, Canada Dry. Alors Canada Dry, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, le shadow banking, je dirais que c'est un petit peu l'inverse, parce que c'est pas censé être de la banque. D'accord, ce n'est pas réglementé comme la banque, mais ce sont des activités assimilables en fait à celles des banques, parce que ce sont des entités financières qui soit proposent des crédits sans être des banques, qui fournissent des garanties de crédit sans être des banques, qui portent du risque de crédit sans être des banques, qui font de la transformation. Ça veut dire que ce sont des entités qui vont aller se financer à très court terme sur les marchés en émettant des titres et qui vont réaliser des investissements dans des achats de titres de plus long terme. Et tout ça, en fait, permet à ces entités d'échapper en fait aux réglementations bancaires tout en couvrant assez largement des activités bancaires. Donc ce sont des pratiques et des entités dans l'ombre des banques, et je pense qu'on y reviendra après, mais c'est pas parallèle aux banques, c'est vraiment très connecté aux banques.
On va voir effectivement que ces deux systèmes sont intrinsèquement corrélés, ou en tout cas, à partir du moment où ils partagent peu ou prou la même activité, ont de fait des conséquences l'un sur l'autre. On le comprend, Philippe Madiès, c'est finalement une définition en creux qui s'impose par la négative, relève du shadow banking, ce qui ne relève pas des banques qu'on pourrait qualifier de traditionnelles. Ce ne sont pas des banques, Jezabel Coupé-Soubéran l'a dit. En quoi s'en distinguent-ils très concrètement ?
Ils s'en distinguent. Bon, premièrement, qu'ils échappent en fait à la réglementation bancaire. Et notamment, ça signifie quoi ? Les banques collectent des dépôts pour octroyer des crédits. Elles collectent ces dépôts auprès en fait d'investisseurs non professionnels. Donc, il faut absolument les protéger. On a besoin d'impliquer en fait les déposants, les ménages que nous sommes dans le système financier, parce que c'est eux qui ont cette capacité de prêter aux entreprises, de prêter aux administrations publiques. Donc, c'est important que les déposants aient confiance dans le système bancaire, et du coup, les dépôts sont assuré. Il existe une assurance des dépôts. Il n'existe aucune assurance des dépôts dans le shadow banking, première chose. Deuxième élément, les banques ont la possibilité de se refinancer entre elles sur le marché monétaire interbancaire, en monnaie banque centrale. On a la possibilité de se refinancer auprès de la banque centrale et elles bénéficient du soutien en cas de crise des liquidités de la banque centrale qui peut intervenir pour leur prêter de l'argent très rapidement, ce qui n'est pas du tout le cas pour le shadow banking.
Donc ce qu'on comprend aussi dans ce que vous nous dites, c'est que c'est un ensemble de structures d'organisation qui fonctionnent un peu sans filet de sécurité. Finalement, c'est ça qui ressort et qui, de fait, se trouve au-dessus, ou en tout cas à l'écart des règles qui viennent compenser ce filet de sécurité. Pour bien comprendre la réalité que recouvre ces termes, il faut mentionner concrètement quelles sont ces institutions, quelles sont ces entités qui font partie de ce système dit de l'ombre. On y trouve des hedge funds, des fonds spéculatifs, des fonds de titrisation, des fonds monétaires, des fonds obligataires. Ça fait tout un ensemble de monde. Chacun fonctionne selon ses propres logiques. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, finalement, toutes ces institutions-là, Jezabel Coupé-Souverain?
Alors, si vous me permettez, je vais revenir sur l'idée du sans filet de sécurité. Parce que, précisément, ce que fait la connexion entre banques et shadow bank, c'est que ça installe une forme, si vous voulez, de filet de sécurité implicite pour tous ces acteurs du shadow banking. Et donc, ils fonctionnent avec des garanties qu'ils ne devraient pas avoir. Ça, c'est vraiment un aspect important. C'est-à-dire que quand une banque réalise une opération de titrisation. Alors, faut pas avoir peur du mot, même si c'est une opération un peu problématique. Ça consiste pour une banque à sortir des paquets de crédit de son bilan, à les vendre à une entité financière, un véhicule de titrisation, qui va fabriquer des produits financiers avec, pour parler simplement, qui va émettre des titres adossés à ces paquets de crédit et ces nouveaux produits financiers vont être achetés par tout un ensemble d'investisseurs, y compris des banques d'ailleurs. La titrisation, c'est une opération emblématique du shadow banking. En quoi il y a un lien? Alors déjà, si vous voulez, l'opération lie une banque et une entité financière shadow bank, mais surtout, en fait, généralement, cette shadow bank dispose d'une ligne de crédit auprès de la banque qui la sécurise beaucoup. Vous voyez, donc il y a toujours en fait cette sécurité, de la même manière que quand un hedge fund, par exemple, se voit déléguer une partie du portefeuille de titres d'une banque, ou quand un gros gestionnaire d'actifs, puisque vous m'interrogiez sur les acteurs, quand BlackRock se voit déléguer une partie de la gestion du portefeuille d'une banque, eh bien, si vous voulez, pareil, il y a des lignes de crédit qui sont là et il y a des liens, en fait, très sécurisants qui changent le comportement des deux parties. Parce que la shadow bank qui bénéficie de ce lien, eh bien, va beaucoup moins assumer ses risques que ce que ferait cette entité si elle ne disposait pas de cette garantie. Et du côté de la banque, eh bien, en fait, c'est un peu la même chose. Ça change son comportement aussi. Ça l'amène à prendre des risques qu'elle ne prendrait pas si elle ne disposait pas de cette connexion avec une shadow bank.
On reviendra sur cette question de ce qui fait finalement l'attrait aussi pour ces produits-là, si c'est l'offre en tant qu'existante ou si c'est la demande qui produit de fait cette offre. Et ça a eu notamment un rôle dans la crise de 2007-2008 aux États-Unis. On y reviendra. Philippe Madias, vous vouliez réagir?
Oui. Juste pour revenir sur la question en fait des ruées bancaires. En fait, il y a un mécanisme qui s'appelle l'assurance des dépôts dont j'ai parlé. C'est-à-dire que les déposants sont assurés en cas de défaillance de leur banque pour prévenir des phénomènes de ruée liés à une perte de confiance dans le secteur bancaire où tout le monde vient retirer en fait son argent en même temps parce qu'il anticipe que les autres déposants vont faire de même. Il faut savoir que l'assurance des dépôts est financée par des primes payées par les banques. Et là, ça va dans le sens de ce que disait Jezabel Coupé-Souverain. Dans le shadow banking, on peut avoir des phénomènes de ruée. Alors, ce n'est pas sur des dépôts, mais des fonds que l'on souhaite à un moment donné retirer. Donc ça, en plus, ça implique quoi? Ça veut dire que les fonds concernés vont être obligés de liquider des actifs rapidement, avec des ventes à la casse, une baisse des prix, donc des effets, on voit bien, de contagion, des effets systémiques. Donc, en effet, au final, il faudra bien, surtout s'ils sont de grande taille, que la puissance publique puisse intervenir à la Banque centrale et qu'on puisse les sauver, mais eux n'ont pas partagé, contrairement dans ce cas-là, contrairement aux banques, le coût du financement, par exemple, de l'assurance des dépôts.
C'est extrêmement intéressant. Et puis, par ailleurs, on va voir que ça s'est illustré, de fait, dans l'histoire, ce filet de sécurité qui, par sérendipité, finalement, fonctionne, puisque les banques traditionnelles prennent des risques et bénéficient, de fait, d'un certain nombre d'assurances, on va dire, par lien, par interconnexion, les shadow banks aussi. Philippe Mathias, je voudrais juste revenir sur un point pour que tout le monde comprenne bien aussi de quoi on parle, et toujours dans cette idée d'une définition en creux par rapport au système officiel. Qu'est-ce qui fait, au nom de quoi protège-t-on les banques traditionnelles et qui fait qu'on ne protège pas avec les mêmes outils, en tout cas ou pas de façon aussi directe, les shadow banks?
Alors, pourquoi les banques? Parce que les banques sont des entreprises en fait très particulières, et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Elles ont une structure financière qui comprend beaucoup plus de dettes qu'une entreprise normale. Voilà. On estime qu'une entreprise à notre secteur d'activité, quand elle a un levier financier supérieur à 1, c'est-à-dire que le montant de ses dettes est supérieur à ses montants de capitaux propres, elle commence à être trop endettée. Le levier financier moyen des banques françaises, il est de l'ordre de 4. Elles ont 4 fois plus de dettes que de capitaux propres, et ce n'est pas le cas que des banques. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette dette, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens parce que c'est très importante, est détenue, en fait, par des investisseurs non professionnels. Voilà, des investisseurs
malgré eux.
Vous mettez votre argent sur votre dépôt, etc. C'est pour même financer votre consommation immédiate. Voilà. Mais cet argent va être utilisé par la banque, qui en plus va faire de la transformation d'échéance, ce qui est économiquement très utile, ce que les marchés de capitaux ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire qu'avec des ressources assez exigibles, elle est capable de transformer ces ressources dans des prêts, dans des actifs d'échéance plus longue. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et comment elle peut le faire? Parce que globalement, la ressource en dépôt est une ressource certes cyclique, mais stable. Parce que vous allez dire, sauf, s'il y a une perte de confiance des déposants. Et là, je voudrais juste souligner un phénomène de ce point de vue-là, par rapport aux ruées bancaires, aux paniques bancaires, qui ne sont pas une simple vue de l'esprit, on pourra y revenir. Il suffit que les déposants anticipent que les autres vont se ruer. Comme on sait très bien que la banque ne pourra pas tous nous rembourser en même temps, parce que...
Premier arrivé, premier servi, potentiellement.
Premier arrivé, premier servi, exactement. Et donc, du coup, ceux qui arrivent après ne sont pas remboursés. En l'absence de système d'assurance des dépôts, si j'anticipe ce genre de choses, je suis dans un mécanisme qui est totalement autorisateur. Ce que j'anticipe nécessairement se réalise. Voilà, j'anticipe que les autres vont se précipiter, donc la banque va être en situation de liquidité et qu'elle va faire faillite, donc... Ma meilleure réaction, c'est de précipiter pour retirer mon argent. Faisant ça, si tout le monde fait ça, la banque se précipite. Et je voudrais juste dire, et ce qui fait vraiment une spécificité des banques par rapport à ça, et j'en discutais avec des collègues sismologues, je veux dire, on a à l'Université Grenoble-Alpes un institut du risque où on travaille avec des chercheurs de beaucoup de disciplines, et notamment, j'ai travaillé avec des sismologues, par rapport à des catastrophes naturelles. Vous voyez, le risque de défaillance du secteur bancaire, on le verra, c'est un risque systémique, c'est un risque de type catastrophique, c'est-à-dire la probabilité est rare, mais les conséquences sont extrêmement dommageables. Contrairement à un séisme. Le séisme, c'est pas parce que vous anticipez, vous,
c'est
un séisme,
ou
tous en l'anticipe, qui va arriver. Le problème, c'est que dans le secteur bancaire, si les déposants anticipent, c'est tout le raisonnement que j'ai fait, on a, et c'est pas que dans le secteur bancaire, c'est dans le secteur financier, on a affaire à des phénomènes auto-réalisateurs qui sont extrêmement puissants et extrêmement destructeurs, d'ailleurs qu'on peut avoir dans la banque, mais qu'on peut avoir aussi d'ailleurs dans le shadow banking. Si vous...
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a commencé à dire, c'est que finalement ces phénomènes de ruée aussi, on les trouve en ce qui concerne les shadow banks. Jezabel Coupé-Soubéran, pour bien comprendre, on a bien compris le terme shadow, ça je pense que c'est à peu près acquis, mais le terme banking lui-même interroge finalement, pour se dire, bon, certes, ce sont des institutions financières qui, certes, sont en marge du système officiel, on l'a compris, mais ce n'est pas tout à fait des banques non plus. Elles ne sont pas subordonnées à la souveraineté monétaire, ce n'est pas exactement non plus les mêmes services qui sont rendus. Est-ce que ce terme de banking n'est pas un petit peu abusé quelque part?
Ah non, je crois pas, en fait, si vous voulez. Parce que c'est vraiment de la banque, de l'activité bancaire qui ne dit pas son nom et qui échappe à la réglementation dont fait l'objet des banques. Après, on peut plutôt s'interroger sur la traduction de shadow banking. Est-ce que il vaut mieux dire secteur bancaire parallèle ou secteur bancaire de l'ombre ? Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parallèle, je n'aime pas bien parce que précisément, ça ne rend pas compte des liens, des connexions très fortes entre banques et shadow bank. Et pour prolonger ce que disait Philippe juste avant, il y a effectivement deux grandes justifications à la réglementation des banques. La protection des déposants, qui sont des petits déposants, et on les protège en soumettant les banques à la réglementation et en installant aussi une garantie des dépôts, et les deux s'articulent, vont de pair. Et la deuxième grande justification, c'est éviter les crises systémiques, faire en sorte que ces acteurs ne fassent pas porter un risque systémique trop important. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces fameux shadow banks, qui sont en fait, si vous voulez, vraiment un sous-ensemble des intermédiaires financiers non bancaires, mais qui ne recouvrent pas tous les intermédiaires financiers non bancaires, est-ce que ils gèrent l'argent de petits déposants ? Est-ce que ce sont des acteurs systémiques ? Alors, la réponse est à nuancer, au fond, parce que effectivement, ils ne gèrent pas l'argent de petits déposants. Alors, ça peut être de l'argent de très grande fortune, qui est géré par certains d'entre eux. Mais très souvent, ces acteurs-là ont pour clients, en fait, des professionnels de la finance. D'accord, c'est de la finance au service de la finance, elle-même au service de la finance, au service de la finance. Fonds, oui. La connexion avec l'économie réelle, elle se perd. Mais cela étant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser que même ces clients professionnels-là peuvent paniquer à certains moments, et il y a des ruées qui peuvent s'installer. Il y a également aussi maintenant, en fait, des nouvelles formes de ruées, ce qu'on appelle des ruées silencieuses, qui s'installent entre les banques et ces acteurs, et ça a été très particulier, si vous voulez, notamment pendant l'année 2023. Pendant l'année 2023, on a vraiment les répercussions du resserrement de la politique monétaire, de la hausse des taux d'intérêt. Certains fonds monétaires, fonds d'investissement proposent des produits financiers beaucoup plus rémunérateurs que l'épargne laissée à la banque. Et donc, il y a eu ces ruées silencieuses avec des fuites de dépôts depuis certaines banques vers des entités, certaines entités de shadow banking ou vers plus largement des intermédiaires financiers non bancaires. Et donc ça a fait gonfler encore plus cette intermédiation financière non bancaire sur cette année-là. Mais sinon, globalement, en fait, tout ça a beaucoup grossi. Les banques, comme les intermédiaires financiers non bancaires, comme le shadow banking, depuis la crise financière de 2007-2008. Alors qu'on aurait pu attendre l'inverse, si vous voulez. On aurait pu attendre que cette crise assainisse le système financier, le contracte. On a observé tout le contraire, on pourra l'expliquer.
On va tout à fait revenir sur ce qui peut potentiellement être vu comme un échec, finalement, des leçons retenues ou non de cette fameuse crise, et puis sur la place aussi qu'occupe de façon très concrète ce fameux shadow banking. Avant cela, je crois, Philippe Mathias, que vous souhaitiez réagir.
Oui, je souhaitais réagir sur les propos de Jézabel. Oui, pour dire que je pense que le cœur de la question, c'est de savoir si ce shadow banking, ces entités font partie du shadow banking, cette intermédiation non bancaire peut être source de crise systémique. Voilà, on va y venir. Mais ce qui est sûr, et ce que je veux dire, on en parlera après, c'est que les banques sont source de crise systémique.
En elle-même, oui.
C'est ce que j'ai expliqué. Et juste en complément, il y a un élément important, je pense aussi pour nos éditeurs, qui fait la spécificité des banques, c'est qu'elles se refinancent entre elles sur un marché qui s'appelle marché monétaire interbancaire. Elles se prêtent de l'argent à très court terme. Et c'est un endroit, c'est un véhicule, en fait, de la contagion de la défaillance. Ça veut dire que quand vous avez une banque, surtout si elle est de grande taille, voilà, qui fait faillite, elle peut avoir des effets dominos. Je ne connais pas un autre secteur d'activité économique que le secteur bancaire ou des entreprises concurrentes se financent à très court terme. Et ça, c'est un véhicule de la défaillance. Et c'est comme ça que se crée une crise bancaire. Premier point, au niveau du secteur bancaire, les banques gérant les moyens de paiement dans une économie monétaire, plus de secteur bancaire, plus de système de paiement, on ne peut plus rien régler, tout s'arrête. Les banques financent très largement l'économie à court, moyen et long terme. On voit bien le secteur bancaire qui s'écroule, c'est l'économie qui s'arrête très rapidement. Voilà ce qu'on appelle donc la crise bancaire devient une crise économique systémique, voilà. Ça c'est sûr.
Que la possibilité existe, après tout dépend le niveau de risque aussi, finalement, dans lequel on s'engage. Isabelle Coupé-Sébrin, je crois que vous vouliez réagir. Je veux bien juste qu'on revienne quelques instants aussi sur cette distinction, plutôt en termes de vocabulaire, entre shadow banking et ces institutions financières non bancaires, parce que je crois que les deux termes se confondent, et notamment du point de vue du Conseil de stabilité financière qui a fait son choix plutôt vers les institutions financières non bancaires. Donc, quelle est la différence?
Alors, imaginez, si vous voulez, une sorte de poupée russe, d'accord, de jeu de poupée russe. La plus grande poupée russe, eh bien, c'est le système financier. C'est le système financier, tous les actifs portés par l'ensemble des institutions financières, les banques, les banques centrales, les assurances, les fonds de pension, les fonds d'investissement, etc. etc. Vous avez un sous-ensemble dans ces systèmes financiers d'institutions financières non bancaires, qui ne comprend pas les banques, qui ne comprend pas les banques centrales. Et vous avez à l'intérieur encore, si vous voulez, de ces intermédiaires financiers non bancaires, ce que le Conseil de stabilité financière appelle les autres intermédiaires financiers, où vous allez avoir là beaucoup plus, si vous voulez, toutes les sociétés de financement, les fonds d'investissement, etc. Et puis, à l'intérieur de ça, vous avez un sous-ensemble qui vient d'ailleurs couvrir aussi un tout petit bout de l'intermédiation financière non bancaire, qui correspond à ce que le Conseil de stabilité financière nomme la mesure étroite de l'intermédiation financière non bancaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par mesure étroite? Ben, il faut entendre précisément shadow banking. Mais le FSB, FSB, c'est Financial Stability Board, donc c'est ce fameux Conseil de stabilité financière, n'appelle plus ça shadow banking. En fait, depuis 2011, il fournit un chiffrage, il établit un rapport du système financier mondial par zone, et il expose la composition de ces systèmes financiers. Donc, il donne la part des actifs gérés par les banques centrales, par les assurances, etc. et par les shadow banks. Alors, au début, ce rapport était vraiment focalisé sur shadow banking. Il y avait shadow banking dans son titre. Et puis, à partir de 2019, c'est devenu un rapport sur l'intermédiation financière non bancaire. Bon, c'est peut-être un détail. C'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. D'accord? Ça veut dire que on n'utilise plus, si vous voulez, les mots qui fâchent, parce que shadow banking, c'est effectivement quelque chose d'assez problématique. Ça a été un facteur faisant partie des nombreux facteurs de la crise financière de 2007-2008. Est-ce que ça s'est assaini par la suite? Franchement, pas vraiment, mais on fait comme si c'était le cas, en ayant, si vous voulez, un intitulé qui normalise un peu tout ça.
Philippe Madias, cette question de la norme, elle est extrêmement importante, parce qu'on pourrait se dire qui décide finalement qu'une institution financière relève ou non du circuit traditionnel. On a parlé de ce Conseil de stabilité financière. Est-ce que c'est lui qui établit les règles et les normes? Et puis surtout, peut-être préciser aux auditrices et aux auditeurs, on est bien d'accord que lorsqu'on parle de shadow banking, on ne parle pas là d'une activité illégale. Ce n'est pas officiel, mais ce n'est pas illégal pour autant.
Tout à fait. Ce n'est pas illégal. On est bien d'accord là-dessus. C'est le Conseil de stabilité financière maintenant qui fait relativement autorité, parce que c'est lui aussi en tant que chercheur qui nous livre ces données, notamment les travaux que j'ai pu faire sur le shadow banking. Eh bien, on s'appuyait sur les données du Conseil de stabilité financière. Donc forcément, c'est ces définitions qui se sont imposées. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais je peux vous dire que Il y a autant d'économistes que de définitions de ce qu'est le shadow banking. Nécessairement, vous aviez des approches par entité, des approches par activité qui me semblent plus pertinentes. C'est-à-dire que c'est compliqué de définir le shadow banking, etc., en disant c'est telle et telle entité qui fait partie du shadow banking. Mais c'est plus facile de dire c'est telle et telle activité qui est du shadow banking, parce que ces activités, elles vont être faites par certaines banques d'affaires, par certaines banques, par des investisseurs institutionnels. Donc déjà, je pense que c'est une première chose. Par contre, dans les statistiques que l'on peut voir, notamment dans la presse, moi je suis très réservé sur les définitions trop larges, notamment qui intègrent les fonds de pension, les assureurs. Il faut voir, attention, on a dit que, alors déjà le shadow banking, voilà, c'est des entités de nature très différente. Voilà, c'est ça qui rend les choses complexes. Dans le shadow banking, il y a des entités qui sont quand même régulées. En fait, alors, c'est pas en contradiction ce qu'on a dit, qui ne relèvent pas de la réglementation bancaire parce que c'est pas des banques, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas régulées. Les assurances et les compagnies d'assurance doivent respecter une réglementation prudentielle qui a fait l'objet d'une harmonisation européenne, etc. Concernant les fonds d'investissement, les organismes de placement collectifs, on a deux directives européennes qui ont encadré les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, etc. Donc, vous voyez, les choses sont un petit peu plus subtiles. Oui. Et voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas une, c'est pas la réglementation bancaire qui s'applique, mais il peut y avoir d'autres réglementations. Par contre, on a certains acteurs, peut-être qu'on en parlera, qui sont très très loin d'être réglementés, quelle que soit la réglementation, et qui, sont souvent domiciliés dans des paradis fiscaux.
Ah bah, vous me faites une transition parfaite, parce que pour donner un petit peu de consistance aussi à cette finance-là, qui, on le voit, échappe parfois à des cases, on va dire, trop rigides en termes de définition, on apprenait, d'ailleurs grâce à ce fameux conseil de stabilité financière, que pour, et notamment en lien avec cette problématique de la souveraineté, qu'il y a 4 pays, la Chine, les îles Caïmans, l'Irlande et le Luxembourg, qui représentent 60% de ce système de shadow banking. Donc, pour au moins 3 d'entre elles qui sont très largement associées à des sortes de paradis fiscaux, même si les îles Caïmans sont officiellement sorties de la liste noire de l'Union européenne en 2020. Et puis, l'Irlande et le Luxembourg n'y figurent pas non plus, mais pratiquent, on va dire, une fiscalité fort avantageuse ou arrangeante vis-à-vis des entreprises et des particuliers. Jésabel Coupé-Soubéran, comment interpréter finalement cette drôle de coïncidence, on va dire, entre activité de shadow banking et statut fiscal de ces pays?
Oui, mais c'est pas surprenant du tout, si vous voulez, parce que la majeure partie des hedge funds, de fonds d'investissement alternatifs sont enregistrés dans des paradis fiscaux, d'accord. Donc, et ça, ce sont des entités tout à fait emblématiques du shadow banking. Et alors, d'ailleurs, pour revenir un peu sur la vision plus ou moins large de ce shadow banking. Au départ, la Commission européenne, c'était en 2012, avait publié un livre vert et effectivement avait une vision assez extensive en nous disant, eh bien, ce sont à la fois ces cinq types d'entités. Donc il mentionnait des entités comme les entités de titrisation, les véhicules de titrisation, des fonds monétaires, des fonds d'investissement, des sociétés de financement, des assureurs fournissant des garanties de crédit. Donc il nous disait ce sont ces cinq types d'acteurs et deux activités, la titrisation et puis des opérations de prêt temporaire. De titres de vente, en fait de vente temporaire de titres contre des liquidités, si vous voulez, de prêt temporaire de liquidités contre des titres. Ce sont des opérations qu'on appelle en fait des opérations de repo. Et qui ont lieu où ça? Qui ont lieu en fait sur le marché monétaire dont parlait Philippe tout à l'heure, en disant le marché monétaire c'est le lieu où les banques se financent entre elles. Ben, en fait les connexions, elles sont plus sur ce marché-là, elles sont plus seulement entre banques, elles sont entre banques et shadow bank par l'intermédiaire de ces opérations où les acteurs s'échangent temporairement des titres contre des liquidités. Alors, juste pour finir sur nos histoires de poupées russes, là, le Conseil de stabilité financière a changé non seulement les termes, mais également l'approche, en essayant de resserrer un peu, si vous voulez, l'approche du shadow banking, parce qu'au départ, lui-même avait une vision large et une vision étroite, donc une mesure large et puis une mesure étroite. Et à partir de 2018, donc, le Conseil de stabilité financière a préféré s'en tenir à la mesure étroite pour pas trop effrayer, parce que en fait, quand il a commencé à prendre la mesure du shadow banking, avec la vision large, c'était 30% de la finance mondiale. C'était le tiers de la finance mondiale. En resserrant sur la vision étroite, eh bien, on arrive à 15% de la finance mondiale, ce qui n'est pas rien, d'accord? Mais ça, c'est la mesure étroite de l'intermédiation financière non bancaire, alors que l'intermédiation financière non bancaire, elle, c'est la moitié du système financier mondial. Et quand même, on peut pas ne pas donner, si vous voulez, un ordre de grandeur, parce que c'est quand même assez effrayant quelque part, je trouve. Enfin, le total des actifs au bilan de l'ensemble des institutions financières, banques, pas banques, c'est pour fin 2024 486 milliers de milliards de dollars. D'accord ? 486 milliers de milliards de dollars. C'est juste énormissime. La moitié de ça, c'est de l'intermédiation financière non bancaire. Et 15%, si vous voulez, de ça, du total, hein, c'est le shadow banking. Donc le shadow banking aujourd'hui, c'est quand même 70 milliers de milliards de dollars.
Isabelle Soubeyran, vous venez de nous donner pas mal de données, et qui c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons cette émission, c'est parce que ces données sont relativement récentes. C'est un rapport paru à la toute fin de décembre 2023 qui fait état de cette part, finalement, du shadow banking ou non dans l'économie. Philippe Madiès, tout de même, ce rapport, donc, il le dit, mais avec toutes les nuances qui s'imposent, il le dit, la part du shadow banking dans les actifs financiers mondiaux est aujourd'hui près de 50%. On a compris, grâce à Isabelle Coupé-Soubeyran, que c'est une part bien moindre en fonction de la définition qu'on choisit réellement d'observer. Il s'agit tout de même d'un chiffre qui évolue et d'un chiffre qui augmente malgré tout. Alors, quelle que soit sa part, si on en reste à ces fameux 50%, selon le rapport du Conseil de stabilité financière, c'est une augmentation de 8,5% en 2023, alors que celui du secteur bancaire traditionnel n'aurait augmenté que de 3%. Ça, comment on l'explique ? Est-ce qu'il y a, malgré tout, quelle que soit la définition qu'on choisit, une part plus importante tout de même du shadow banking au sein des actifs financiers de façon générale ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut se donner peut-être un tout petit peu de profondeur historique. Voilà, pour le shadow banking a s'accéléré dans les années 90. Il a commencé au début des années 80 avec le mouvement de libéralisation financière, mais c'était peu de choses. Quand on regarde les chiffres, ça a compté du milieu des années 90, qui s'est très largement développé. Notamment aux États-Unis, il a ralenti suite à la crise bancaire et financière de 2007-2008-2009. Et pour moi, la crise des subprimes, la crise financière de 2007-2008-2009 est avant tout une crise du shadow banking. Et d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres aux États-Unis, le shadow banking n'a cessé de progresser. À l'heure actuelle, on peut dire qu'aux États-Unis, le financement par l'intermédiation financière non bancaire équivaut au financement par les banques. Voilà, on est en Europe, ça représente la moitié. En Chine, on estime que c'est 25 à 30% le financement. C'est-à-dire que le financement par shadow banking représente 25 à 30% du financement bancaire. Si je reviens sur les États-Unis, on voit que la crise financière qui a conduit à la déconfiture d'un certain nombre de banques de financement et d'investissement, qui étaient lancées dans des opérations de shadow banking, a fait que le shadow banking a baissé très très fortement et qui s'est relancé à partir de 2012-2013. Pour des raisons que je peux expliquer si vous le souhaitez.
Alors on va revenir sur le paradoxe face auquel on se trouve actuellement. Finalement, des activités relativement risquées, on l'a compris, qui sont quand même largement à l'origine de la crise de 2007-2008 aux États-Unis. Alors pourquoi tout simplement se servir de ces outils alors qu'on sait qu'il y a des conséquences tout de même assez directes, et dans quel contexte ont émergé finalement ces outils nouveaux, cette proposition financière nouvelle ? On en parle juste après Jacques Brel.
Suis l'ombre des chansons que tu veux oublier pour chanter les leçons d'un monde fatigué. Suis l'ombre des chansons qui aurait pu jeter au fond de ta prison un rayon de clarté. Tout habillé de noir, je te suis dans tes rêves illusoires, où le jour qui se lève sans foi, sans joie s'achève. Suis l'ombre de l'ami dont tu laissas la main qui te servit à faire tes lendemains. Suis l'ombre de l'ami qui faisait qu'au matin, pour toi chantait la vie et s'ouvraient les chemins. Tout habillé de noir, je te suis au désert, où t'entraîne l'espoir de conquérir la terre. L'enfant méchant se perd, suis l'ombre des amours que tu t'es refusé.
Si une partie du système financier se situe dans l'ombre, certaines chansons aussi. Je suis l'ombre des chansons. C'était Jacques Brel sur France Culture. Et vous êtes également sur France Culture, puisque vous nous écoutez. Entendez-vous l'écho plonge aujourd'hui dans les rouages de la finance de l'ombre, le shadow banking et ses conséquences sur l'économie dite réelle. Et nous sommes toujours en présence de Jezabel Coupet-Soubeyran et de Philippe Madiès. Alors on s'était arrêté à une question relativement cruciale. Jezabel Coupet-Soubeyran, finalement, à quoi bon
À quoi ça sert
de prendre tous ces risques, alors même qu'on en a quand même relativement conscience. On voit bien que ce n'est pas dans les circuits officiels. Donc pourquoi courir ce risque?
Alors, à quoi ça sert? Ça sert à faire de l'argent avec de l'argent. Et ça, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur du capitalisme et c'est le cœur du capitalisme financier. Donc, si vous voulez, l'émergence de ces acteurs financiers, de ces intermédiaires financiers non bancaires, ça a accompagné, en fait, le capitalisme financier. Je crois que c'est important de repartir de, comme le faisait Philippe tout à l'heure, de la mutation financière des années 80-90, formidable développement des marchés de capitaux. Et alors, à l'époque, on était un peu naïf, on imaginait qu'en fait le développement des marchés de titres allait s'opérer au détriment des banques, au détriment de l'intermédiation. Et donc, y compris des intermédiaires.
Parce qu'on se disait que ça ferait concurrence de façon plus avantageuse.
Oui, parce qu'on se disait que c'était l'essor de la finance directe, que les entreprises iraient directement émettre des titres sur les marchés, que les épargnants iraient directement en acheter. En fait, il n'en a rien été. Ça a permis un essor absolument fantastique de l'intermédiation, à la fois d'ailleurs bancaire et non bancaire, et ça a permis aussi ce que nos collègues Laurence Sialom et Yamina Tadjedine appellent une hybridation de la finance. C'est-à-dire que dans cette mutation financière, progressivement, si vous voulez, les banques se sont financiarisées et la finance s'est bancarisée. Et ça fait éclore, eh bien, ces espèces de monstres shadow banks qui sont à la fois de la finance et de la banque qui ne dit pas son nom. D'accord, et qui permet d'échapper en fait au cadre réglementaire. Et tout ça, encore une fois, vraiment a grossi en fait quasiment en même temps. C'est-à-dire que les banques ont beaucoup grossi avant la crise financière. Le shadow banking, l'intermédiation financière non bancaire a beaucoup grossi. Le shadow banking a beaucoup grossi. Comme le disait Philippe tout à l'heure, la crise marque un petit temps, si vous voulez, un petit temps de contraction. Et alors, moi, je suis un peu d'accord pour dire que c'est la crise du shadow banking, mais c'est aussi la crise du crédit bancaire et du crédit immobilier partout dans le monde. Et en fait, avec la gestion de crise par les banques centrales qui vont intervenir, alors pas seulement en faisant des prêts de monnaie centrale aux banques de façon très très accommodante, mais également en achetant massivement des titres à tous les acteurs financiers qui veulent bien en vendre, qui veulent en vendre sur les marchés. En fait, les banques centrales ont déversé énormément de liquidités, pas seulement auprès des banques, mais auprès d'intermédiaires financiers non bancaires et de shadow banks. Et
Tout ce
monde financier-là a beaucoup grossi, sans évidemment que ça profite à l'économie réelle, sans que ça nous permette de financer les investissements de transformation dont on a besoin. C'est de la finance au service d'elle-même.
Jezabel Coupet-Soubeyran, vous faites bien effectivement de remonter presque à la genèse aussi de cette proposition nouvelle. En fait, pour que tout le monde comprenne bien, il y a une forme de course à l'échalote qui s'est produite parce que ces nouveaux produits sont arrivés. Les banques traditionnelles se sont senties, en tout cas américaines, se sont senties un peu lésées et ont fait un intense travail de lobbying, il faut le dire, aussi dans les années 80-90 pour tenter d'avoir moins de contraintes, on va dire, alors que jusqu'ici, il y avait quand même eu les traces de la crise de 29 et une régulation plutôt performante aux États-Unis. Ça, c'est une autre chercheuse, Esther Jeffers, qui nous le dit. Dans les années 80, il y a tout un ensemble d'actes et de lois qui sont prises pour permettre aux banques d'élargir les types de prêts susceptibles d'être octroyés par les banques commerciales et les caisses d'épargne, notamment sur le marché de l'immobilier. Tout ça permet d'accorder des taux révisables. Donc voilà, en quelque sorte, tout le monde cherche à s'aligner sur cette norme forme-là, qui consiste à produire ou à offrir des produits financiers beaucoup plus innovants, on va dire, et qui permettent cet accès soi-disant simplifié, on va dire, au financement, ce qui pose une question fondamentale. Philippe Madiès, finalement, dans quelle mesure peut-être l'excès de régulation a incité à se tourner de fait vers des produits de plus en plus complexes, dits innovants? Finalement, est-ce que ce n'est pas trop de régulation qui a poussé à cette forme de dérégulation totale qu'est le shadow banking?
Oui, je vais répondre tout de suite à votre question, mais je rajouterai juste un élément. Il y a un chiffre simple pour comprendre le rôle qu'ont les établissements de crédit bancaires, et notamment français. N'allons pas chercher si loin, mais c'est le cas partout sur les marchés financiers. Vous prenez le bilan agrégé des banques françaises. Maintenant, les dépôts représentent 30% de leurs ressources. 30%. Les crédits, 30%. Le reste, c'est des actifs financiers. Donc les banques détiennent des portefeuilles d'actifs financiers absolument colossaux.
Considérable, oui.
Voilà. Y compris les banques européennes, hein, disons-le, parce que vous
bien
vous
sûr.
Mettiez...
Jusque là, je pars des États-Unis, mais
l'accent sur les banques américaines.
Y compris les banques européennes, elles ont très très largement profité, et notamment les banques françaises qui sont devenues des banques universelles et qui sont diversifiées en gestion d'actifs, en banque de financement et d'investissement. Maintenant, je réponds à votre question. Alors, lorsque on pourrait penser que le fait que on accroisse la réglementation sur les banques et on connaît ce type de mécanisme, ben forcément elles cherchent à contourner cette réglementation en innovant et en essayant d'aller faire leurs activités ailleurs dans des environnements où elles sont moins réglementées. Alors moi je pense que c'est une très mauvaise manière de voir les choses.
Donc l'arbitrage réglementaire ne compte pas tant que ça finalement.
Pour moi il ne compte pas tant que ça. Alors déjà on a fait une étude dans un article qui a été publié dans la revue des économies financières en 2019, où on a travaillé avec des collègues de mon laboratoire sur justement le shadow banking sur toutes les années 90 jusqu'en à peu près 2015. On a travaillé sur une trentaine de pays, on a travaillé par région, de manière agrégée. Qu'est-ce qu'on montre? Que montre l'étude? On montre que la réglementation des banques, le degré de réglementation des banques, en fait, explique pour très peu la croissance du shadow banking. Voilà. Et si on pense que en déréglementant les banques, on va résoudre nos problèmes, je crois qu'on l'expliquait au début, en donnant toutes les spécificités des banques, il faut surtout pas relâcher la réglementation bancaire. Ça, c'est un premier point. Ce qui fait qu'à un moment donné, le shadow banking notamment a pu se développer très fortement, on le voit aux États-Unis entre 2005 et à partir du début des années, notamment 2000, et Gisabelle l'a rappelé, à un moment donné c'est quoi? C'est la course à la rentabilité des capitaux propres, aussi au rendement pour les actionnaires. Je vous rappelle juste deux chiffres. Pour les banques d'affaires américaines, à la veille de la crise des subprimes de 2007, entre 2002 et 2007, taux de rendement moyen des capitaux propres entre 20 et 25%. C'est absolument colossal. En ce qui concerne les banques françaises, on était entre 15 et 20% sur leurs filiales, banques de financement et d'investissement, de rentabilité des capitaux propres. Voilà, c'est ce que ça rapporte. Donc, si on continue à avoir une pression des actionnaires à un moment donné pour avoir de tels rendements, c'est ça qui crée du risque. Voilà, n'importe quel prof de finance explique une chose, c'est que si on veut augmenter le rendement moyen, on doit prendre plus de risques. Parce qu'on parle de risque, personne ne prend du risque par plaisir. Mais si à un moment donné, on veut gagner plus, nécessairement, il faut prendre des risques supplémentaires avec toutes les conséquences, malheureusement, que ça peut avoir.
France Culture.
C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le pont.
J'ai pas dit une chose. On est démodé. Tu comprends?
Entendez-vous l'écho?
Démodé. Vous êtes complètement démodé. C'est Aldo qui l'a dit. Vous êtes démodé, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous acharnez à chercher fric dans les banques, mais c'est plus là qu'il est fric.
Aliette Ovine.
Jezabel Coupet-Soubeyran, on s'est quitté sur cette notion d'arbitrage réglementaire, de savoir finalement dans quelle mesure l'absence, enfin la trop forte régulation conduit pour rester compétitif en tant que banque à proposer des produits divers et variés ou à avoir maille à partir, on va dire, avec le shadow banking. Selon vous, est-ce que c'est un argument qui est entendable aussi de se dire que voilà, on est dans un système concurrentiel, y compris dans le secteur financier, il faut bien y faire face.
C'est un argument qu'aiment bien en fait utiliser les banques elles-mêmes, hein, les représentants des banques, les lobbyistes de banques aiment bien dire oh, attention, si vous nous réglementez trop, eh bien les risques qu'on ne peut plus prendre, ce sont d'autres acteurs qui les prendront, les acteurs du shadow banking, et donc au final, donc,
autant que ce
plus
soit
on
nous,
régule, oui. Voilà, et plus on dérégule, autant que ce soit nous, parce que nous au moins on est encadré. Alors cet argument, c'est vraiment un argument très présent dans la rhétorique du lobby bancaire et qui permet, si vous voulez, d'exercer une pression et de limiter les progrès de la réglementation. Donc c'est un argument vis-à-vis duquel il faut être très très prudent. Après, il faut quand même peut-être introduire un petit peu de nuance et ne pas nier l'évidence. C'est-à-dire que la réglementation, pour une banque, c'est bien sûr une contrainte qu'elle va chercher par tous les moyens à desserrer, et ça peut conduire à la création d'entités financières ou de techniques financières qui vont permettre de desserrer la contrainte réglementaire. Typiquement, la titrisation, c'est une façon de desserrer les taux réglementaires, c'est une façon de respecter plus facilement les exigences de réglementation au niveau des ratios de fonds propres. En revanche, si vous voulez, ça ne veut pas dire que il faut réduire la réglementation des banques pour avoir un moindre shadow banking.
D'autant qu'elle est justifiée, comme on l'a dit en début d'émission.
Exactement. Ça veut dire que il faut surtout travailler sur les liens entre banques et shadow banks. Parce que les banques ne pourraient pas autant contourner la réglementation en créant des entités shadow bank si, en fait, on essayait de couper ce cordon sur le marché des repos, dans les opérations de titrisation ou ailleurs.
Jezabel Coupet-Soubeyran, juste pour finir sur ce point de l'utilité finalement aussi des produits proposés, dans quelle mesure les banques traditionnelles, à un moment donné, en ont eu besoin aussi de cette façon de se procurer de la liquidité très rapidement, dans quelle mesure ça correspondait aussi à une incapacité de répondre à la demande de liquidité, notamment de la part de celles et ceux qui venaient réclamer aussi cette liquidité. Est-ce qu'il y a un moment où on s'est dit, en fait, oui, on a besoin de ces produits qui nous permettent relativement rapidement d'avoir accès à ces liquidités. Vous parliez des repos, mais ça fait partie aussi de ces options-là.
Oui, alors il est vrai, si vous voulez, que d'une certaine manière, ce sont des acteurs qui peuvent répondre soit à un besoin de rentabilité, soit à un besoin de liquidité. Il est vrai aussi que quand on soumet les banques à des exigences de liquidité, quand on leur demande de détenir des titres liquides de haute qualité à leur actif, eh bien, ça peut les amener aussi, si vous voulez, à s'embarquer un peu plus dans des opérations d'échange de liquidité contre des titres pour se procurer les titres dont elles ont besoin. Donc, bien sûr que tout ça peut en partie venir d'effets pervers d'exigences réglementaires. Mais ce n'est pas fatal. Ça veut dire qu'en fait, il faut réfléchir à l'efficacité de la réglementation et travailler sur les connexions entre banques et shadow banks pour couper au maximum le cordon. Le système financier a besoin, en fait, d'une diversité d'acteurs qui prennent des risques, à la condition qu'ils les assument et que leur comportement soit pas modifié par une forme de garantie, si vous voulez, cachée, dont ils bénéficient auprès des banques. Et de la même manière, on a besoin que les banques restent prudentes, suffisamment prudentes dans l'utilisation, à la fois dans l'utilisation de leurs ressources, dans les activités qu'elles ont, et on a besoin que ces activités soient vraiment au service du financement de l'économie, que ça finance les entreprises. Aujourd'hui, que font les banques? Elles font du crédit immobilier et elles sont très présentes sur les marchés. Je caricature à peine, si vous voulez.
Philippe Madiès, même question finalement sur cette utilité et sur ce lien entre shadow banking, et je vais peut-être me faire là l'avocat de l'ombre de fait, mais entre shadow banking et économie réelle. On pourrait se dire que c'est une façon de financer, et je vous pose la question, notamment dans le contexte du rapport de Mario Draghi, on s'en souvient en septembre de l'année dernière, qu'il disait, si on veut rattraper le déficitaire vis-à-vis des États-Unis. On a besoin d'investissement, donc de financement, et ça, ça passera aussi par la titrisation, il l'a dit.
C'est un argument que mettent en avant un certain nombre d'économistes, plutôt, on va dire, libéraux, pour expliquer le développement du shadow banking. Expliquer que le shadow banking, c'est pas un substitut, mais c'est quelque chose de complémentaire au financement bancaire classique. Et que, voilà, l'économie mondiale étant globalement en croissance, on a besoin de financement supplémentaire et complémentaire, et que grâce au shadow banking, on peut l'obtenir. Deuxième élément qui est mis en avant, tous les investisseurs n'ont pas le même degré d'aversion au risque. Donc certains souhaitent prendre plus de risques pour gagner plus en moyenne, et ils vont trouver des produits financiers, des opérations au sein du shadow banking qui n'ont pas nécessairement dans le secteur bancaire. Ce qui expliquerait, si vous voulez, la croissance aussi du shadow banking.
On va dire que c'est bien là leur droit, de fait.
Oui, de fait. Donc ça, c'est l'utilité aussi du shadow banking. Je veux dire, ça apporte une offre qui est complémentaire. Pour autant, j'aime pas non plus trop le terme de système bancaire parallèle. Parce que, voilà.
Non, ça, on a compris. C'est intrinsèquement lié pour que ce soit séparé.
Exactement. Le secteur bancaire traditionnel et shadow banking sont extrêmement liés. Peut-être vous donner deux chiffres pour vous faire comprendre aussi cette interdépendance. Il y en a un que je tire d'une étude de la Banque centrale de New York, septembre 2024, sur la question du shadow banking aux États-Unis. La Fed estime que 13% des ressources des banques américaines proviennent de la finance de l'ombre, du shadow banking, qui reçoit 19% des placements des banques. Voilà, 20%. Vous voyez, c'est loin d'être neutre. Hein. Donc, tout ça est totalement imbriqué.
Connexion très forte.
Très forte. Et pas simplement les banques américaines. Si vous prenez les banques françaises, ça, c'est un rapport aussi d'une banque centrale, de la Banque de France, sur la stabilité financière du secteur du système financier français, qui date de 2023, où on regarde le lien entre shadow banking et banques classiques. Le shadow banking pèse pour 6% du financement des banques et pour 3% de leurs placements. Alors là, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, 6%, 3%, vous voyez, l'imbrication est très faible. Lorsque on intègre les institutions non bancaires étrangères, et ben là, les chiffres augmentent, on passe entre 15 et 20% des deux côtés. Et donc vous avez bien vu, donc le secteur bancaire est financé par shadow banking et le secteur bancaire finance le shadow banking. Et là, quand on est entre 15 et 20%, c'est loin d'être neutre. Et là, on voit bien qu'il y a une interpénétration, une interdépendance entre les deux.
Ce qui ressort de vos propos, finalement, et on le comprend, ce n'est peut-être pas tant le shadow banking qui doit être dans la ligne de mire, mais que cette fameuse interconnexion entre le système bancaire dit traditionnel et ce fameux shadow banking. En tout cas, c'est ainsi que la régulation aussi pourrait se reconfigurer. En décembre 2022, Ben Bernanke, ancien patron de la Fed de 2006 à 2014, qui a donc essuyé de plein fouet la crise de 2007-2008, reçoit le prix de la Banque de Suède, l'occasion pour lui de s'exprimer justement sur la question de la régulation.
Je pense qu'il est fondamental de mettre en place une forte régulation financière qui s'assure que les institutions financières soient saines et sauves. C'est-à-dire qu'elles aient du capital de qualité, des portefeuilles sans danger et qu'elles ne prennent pas de risques excessifs. Nous devrions avoir une approche macro-prudentielle, ce qui veut dire qu'il ne faut pas simplement regarder les institutions individuellement, mais plutôt regarder l'intégralité du système bancaire et financier et surtout comment le dysfonctionnement d'une partie du système peut en affecter toutes les autres. Il me semble que beaucoup de progrès ont été faits depuis la crise des subprimes et la grande récession, en particulier pour les banques commerciales. Elles détiennent beaucoup plus de capital qu'auparavant, elles possèdent davantage de liquidités, elles effectuent des tests de résistance pour s'assurer qu'elles ne détiennent pas d'actifs trop risqués. Mais je m'inquiète au sujet de la finance de l'ombre, qui était à l'origine de la crise. Il y a eu de nouvelles régulations, mais elles sont loin d'être suffisantes selon moi. Nous l'avons vu en mars 2020 lorsqu'il y a eu une crise financière brutale, mais de courte durée qui provenait principalement de la finance de l'ombre. C'est la leçon que nous devrions retenir de cette expérience. Il faut faire quelque chose dans le domaine de la régulation.
Voilà, un discours prononcé, je le rappelle, en décembre 2022. Jézabel Coppé-Soubeyran, on entend beaucoup de choses dans cet extrait, mais notamment cette volonté, on va dire, de renouveler aussi l'approche de la régulation. Et puis cette idée très forte aussi que l'histoire se répète et est à même de se répéter. Est-ce que vous estimez, comme le fait Bernanke d'ailleurs, qu'on a fait des progrès depuis la crise de 2007-2008 en termes de régulation ?
Alors, je partage le début de son analyse, d'accord ? Donc tout à fait d'accord avec l'idée, si vous voulez, qu'il faut ne plus seulement regarder les risques individuels et donc les institutions financières individuellement, les banques individuellement, mais avoir une vision d'ensemble et avoir une vision en termes de risques systémiques, arriver à prévenir la crise systémique. Et ça passe en fait par des instruments qu'on n'a pas beaucoup développés, parce que certes Ben Bernanke a raison de dire que on a renforcé les exigences de fonds propres des banques, on leur a demandé également de détenir des actifs liquides, de faire plus attention aussi au niveau de leurs sources de financement, d'avoir des sources de financement un peu moins volatiles. Mais en revanche, si vous voulez, au niveau macro-prudentiel, comme il dit, eh bien, on n'a pas fait grand-chose. On a coché une toute petite croix dans la case en ajustant les exigences de fonds propres en fonction de la position dans le cycle financier. Donc, pour être capable, si vous voulez, dans les moments où ça s'emballe, d'avoir un peu plus d'exigences de capacité d'absorption de pertes. Mais en réalité, c'est minuscule. Le surplus de fonds propres exigés varie entre 0 et plus 2,5%. Et ce coussin, chaque pays l'active comme il en a, comme il l'entend, avec l'institution, avec une institution, une autorité en charge qui n'est pas la même selon les pays. Donc tout ça est encore assez limité. Il y a également eu, en fait, au niveau macroprudentiel, des surcharges de fonds propres pour les mastodontes bancaires, pour les gros établissements systémiques, ceux qui, s'ils tombent, entraînent tous les autres dans leur chute. Mais là aussi, ça va pas très loin. C'est plus 1% de fonds propres pour une banque comme BNP Paribas ou Société Générale. Donc, vous voyez, enfin, dire que la régulation du secteur bancaire a été vraiment considérablement renforcée et que le problème, c'est seulement la finance de l'ombre, je trouve que c'est un peu limite, parce que on n'a pas suffisamment renforcé la régulation des banques, et effectivement on a laissé ces liens se développer entre banques et shadow banks. La politique monétaire de Ben Bernanke a largement contribué au développement du shadow banking. Il se garde bien de le dire, hein, mais cet open bar, si vous voulez, au guichet de la Banque centrale, avec des liquidités déversées, pas simplement aux banques, mais également, eh bien, à plein d'intermédiaires financiers non bancaires, ça les a fait énormément grossir, et il l'en remercie beaucoup.
Philippe Madias, sur cette question de la régulation que je vous pose notamment, bon, Ben Bernanke l'évoquait, il y avait mars 2020, c'est presque un épiphénomène. Il y a eu depuis ce qui s'est passé en 2023, notamment avec la SVB, et puis notamment en Suisse avec le Crédit Suisse, la SVB, la Silicon Valley Bank. On a l'impression qu'on n'est clairement pas nécessairement au top de l'anticipation, au moins de ces crises, et ni de la façon de les résoudre.
Oui, tout à fait. Et puis, vous voyez, on parle des ruées bancaires, les paniques bancaires, ça peut paraître très ancien. Voilà, il y a eu 12 paniques bancaires aux États-Unis.
Mais c'est ce qui s'est passé en 2023.
Et voilà, exactement. Certains vous disaient, ah, vous travaillez sur les ruées bancaires, mais tout ça, c'est terminé. Alors, c'est vrai qu'on a développé des systèmes d'assurance des dépôts qui ont permis de limiter. Eh bien, il se trouve que la SVB Bank a subi une ruée bancaire où ses déposants ont retiré jusqu'à 40 milliards de dollars la même journée. Voilà. Et ce qui a déstabilisé la banque, ce qui a posé d'autres problèmes. L'assureur des dépôts intervenu. Normalement, il y a un plafond à l'indemnisation. On a fait le choix de quoi ? On a fait le choix, en fait, de rembourser tout le monde en totalité, ce qui peut poser aussi des problèmes, parce qu'il y a des gros déposants, et notamment là, en plus, beaucoup des clients déposants étaient des entreprises de la tech. Donc, il faut leur donner quand même des incitations à contrôler ce que fait leur banque. Et là, on arbitrait entre quoi ? Ben, entre le fait, ce problème d'anormalité qui fait que quand on sauve tout le monde, et ben, les autres le savent, et ça peut pousser les banques, oui, les autres banques à prendre des risques excessifs. Et on avait par contre peur d'une contamination des ruées bancaires, que ces ruées bancaires deviennent une panique bancaire au niveau du secteur bancaire américain. Pour ça qu'on a fait le choix de rembourser tout le monde à 100%.
Isabelle Coupé-Soubéran, avant de terminer cette émission, je voudrais vous faire réagir, on l'a évoqué un tout petit peu, sur ce fameux rapport de Mario Draghi qui incite de fait à recourir à la titrisation pour financer une industrie plus performante et notamment dans le domaine technologique. Est-ce que ça peut représenter effectivement une solution durable et viable pour ce fameux décrochage européen vis-à-vis des États-Unis?
Je dirais qu'il y a deux choses dans le rapport Draghi. Il y a d'abord l'accent mis sur l'investissement. Il faut investir et il faut que l'Europe se transforme. Là-dessus, on est d'accord. Et il y a la partie sur la solution. La solution, dans le rapport Draghi, c'est l'union des marchés de capitaux. Donc, grand marché de la dette au niveau européen. Il faut que les entreprises se financent encore plus par la dette. Et c'est les financements privés qui vont permettre de financer ces investissements. En réalité, on a aussi besoin de mobiliser des subventions, de beaucoup de financements publics. Ça, Mario Draghi en dit pas grand-chose. Et puis surtout, il considère que cette union des marché de capitaux doit fonctionner avec de la titrisation. On est, si vous voulez, quand même totalement amnésique.
Bon, ce sera sans doute l'objet d'une autre émission à venir sur cette union des marchés de capitaux, notamment. Merci infiniment à vous deux, Philippe Mathias et Isabelle Coupé-Soubéran, d'avoir participé à cette émission.